Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Pour fabriquer les batteries de nos voitures électriques, il faut du lithium. Et pour l'instant, c'est fabriqué comme ça, dans des mines à ciel ouvert, à l'autre bout de la planète. Mais demain, ce précieux matériau pourrait être produit de manière propre chez nous, en Alsace notamment.
L'or blanc, le lithium, bientôt produit en France. La course aux minerais s'accélère dans le monde avec le prochain avènement de la voiture électrique, dont la batterie est gourmande en matériaux plus ou moins rares, comme le lithium, le cobalt, le manganèse ou le nickel. Il faut souvent aller le chercher loin, et notamment en Afrique, région clé pour la plupart des grands producteurs et qui intéresse la Chine, la Russie, mais aussi la France. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux ressources minières de l'Afrique, objet de toutes les convoitises. Afrique à Dieu, chantait Michel Sardou dans les années 80, les eaux bleues du lac Tanganyika qui borde notamment la République démocratique du Congo, un pays riche de son sous-sol, avec le cobalt, appelé aussi l'or bleu, de la couleur que ce minerai gris donne aux objets et qui fait saliver de nombreux industriels de la mine. Le cobalt, un matériau stratégique pour de nombreuses industries. Le journaliste Théophile Simon s'est rendu, il y a quelques semaines, en République démocratique du Congo. Bonjour Théophile.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressé pour les éco-weekends à cette richesse, le cobalt, qui suscite bien des convoitises. Pour cela, vous vous êtes rendu au Congo. Pourquoi là-bas ?
Alors, je me suis rendu en République démocratique du Congo car le pays est la principale source de cobalt dans le monde. Il y a deux chiffres très simples pour visualiser ça. Le Congo, c'est la moitié des réserves de cobalt sur Terre et c'est aussi les deux tiers de la production mondiale. Le pays est un peu au cobalt ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole.
Monsieur l'ambassadeur, je pense qu'il ne faut pas laisser les rebelles s'installer.
On n'est pas des voleurs, on est des libérateurs.
Ils ont également reçu l'ordre d'exécuter tous leurs prisonniers.
Je confirme que seule une opération aéroportée sur Kolwezi.
Nous sauterons sur Kolwezi demain vendredi.
La Légion saute sur Kolwezi, c'est un film datant de 1980 et qui raconte l'opération de sauvetage de coopérants en pleine révolte des Katangais, ça datait. Kolwezi, c'est donc cette ville minière au sud du pays. Pour vous y rendre, vous n'avez pas sauté en parachute, mais vous avez pris la voie moins rapide, la voie de la route.
Oui, Kolwezi, c'est la principale ville minière du sud-est du Congo. Elle est surnommée la capitale mondiale du cobalt parce qu'elle est assise sur un gigantesque gisement de cuivre et le cobalt est un sous-produit du cuivre. Alors, on accède, comme vous l'avez dit, à Kolwezi grâce à une unique route. Et cette route, elle raconte à elle seule la folie de cette ruée vers le cobalt. Chaque jour, il y a plusieurs milliers de camions roulant à tombeau ouvert qui font le trajet entre les mines de Kolwezi et la frontière congolaise, 300 km plus au sud pour rejoindre les ports de l'océan Indien. Et ces camions, ils s'acquittent de près de 1 200 $ pour parcourir ces 300 km de route, le tout dans des conditions de sécurité qui sont affolantes. Le long de cette route perdue au centre de l'Afrique, vous trouvez des centaines de carcasses, de voitures, de camions broyés dans d'horribles accidents, mais aussi des entrepreneurs venus des quatre coins du monde. Vous avez des Indiens qui font pousser les hôtels, des Libanais qui vendent de l'essence, des Européens qui vendent des pièces de rechange industrielles et des Chinois qui investissent en masse dans les mines. Le monde entier fait vraiment affaire le long de cette route.
Ouais, une nouvelle ruée vers l'or. Les mines de la République démocratique du Congo ont pris encore plus de valeur avec les promesses du développement des voitures électriques. Le cobalt, c'est un élément essentiel pour les batteries et c'est une richesse qui est aujourd'hui en grande partie captée par la Chine.
Oui, absolument. Alors, les mines congolaises sont connues de longue date. Les esclavagistes portugais d'il y a 5 siècles avaient déjà connaissance des fabuleuses richesses du sous-sol congolais. Puis les colons belges ont industrialisé les mines, puis ce sont les Américains qui ont couvert de dollars le dictateur Mobutu afin de s'assurer un accès aux mines d'uranium. Mais ce dictateur a fini par ruiner son pays, y compris ses mines, ce qui a conduit à une guerre civile. Et après cette guerre civile, il y a Joseph Kabila, 30 ans, qui se retrouve à la tête du pays en ruine et qui va tenter d'attirer les investisseurs étrangers. Et pour ça, il va se tourner vers la Chine en 2006 à l'occasion d'un voyage d'État particulièrement historique. J'ai pu interviewer l'ancien Sherpa de Joseph Kabila qui a participé à ce voyage à Pékin et qui raconte pourquoi les Chinois sont à la base intéressés par les mines congolaises. C'est tout simplement pour obtenir les matières premières nécessaires à la forte croissance industrielle du pays au début du siècle.
Cette mainmise de la Chine, elle a permis de ramener un semblant de calme dans la région en proie au pillage au début des années 2000.
Oui, c'est indéniable. La Chine a vraiment mis la filière du cobalt congolais sous coupe réglée. Elle a racheté 15 des 19 mines de cobalt du pays. Elle a fait venir des milliers d'entrepreneurs chinois qui ont essaimé dans toute la chaîne de valeur. Les mines, bien sûr, mais aussi les usines de raffinage, le transport, les pièces industrielles et même les restaurants. On trouve à Kolwezi des mets chinois les plus délicieux et les plus rares. Mais je pense que l'un des facteurs de cette nouvelle stabilité des mines congolaises est aussi et tout simplement l'explosion de la demande mondiale. Le cobalt connaît une croissance exponentielle, il devient chaque jour plus important pour la transition énergétique mondiale. Donc le coût du chaos, comme ce fut le cas avec les guerres civiles de la fin du XXe siècle, serait désormais beaucoup trop élevé.
À quoi ressemblent ces mines ? On a du mal à se faire forcément une idée, hein, vue de Paris.
Alors, il y a en réalité deux types de mines. Il y a d'abord les mines qu'on dit industrielles, qui sont opérées par de grandes entreprises minières internationales, donc la plupart à capitaux chinois. Alors, ce sont d'énormes balafres à la surface de la croûte terrestre. Il y a plusieurs kilomètres de large, plusieurs centaines de mètres de profondeur. On fait sauter le sol à coups de dynamite, puis on excave le minerai au moyen de centaines de camions XXL qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Puis on passe ce minerai dans des broyeuses géantes avant de les passer dans des bains chimiques pour le raffinage. Donc, comme vous le voyez, ces mines industrielles sont fortement mécanisées. Elles ne fournissent donc que quelques dizaines de milliers d'emplois, ce qui n'est pas assez pour faire vivre les millions d'habitants du sud-est du Congo, qui vivent dans la majorité sous le seuil de pauvreté. Donc en parallèle, il y a les mines artisanales, c'est-à-dire où la population va elle-même creuser le sol en dehors de tout cadre légal. Et ces mines artisanales, elles font vivre environ 250 000 personnes et elles fournissent près de 20% de la demande mondiale de cobalt, soit plus qu'aucun autre pays producteur sur Terre. Ce sont des mines informelles qui peuvent être à ciel ouvert ou faites de tunnels et où l'on voit des milliers de mineurs creusant le sol à main nue. Elles sont donc bien plus spectaculaires que les mines industrielles parce qu'on voit littéralement voilà, des milliers d'hommes et de femmes qui grouillent dans les entrailles de la terre.
Dans le soir et la poussière, c'est la chanson de la terre. Dans la peur et la malheur, c'est la chanson des mineurs.
On vient d'entendre cette chanson, la chanson des mineurs, dans la peur et le malheur. Quelles sont les conditions de travail, Théophile, dans ces mines ?
Alors, les conditions de travail dans les mines artisanales sont épouvantables, proches de l'esclavage, et je pèse mes mots. J'ai été au fond de ces mines, et je peux vous dire ça. Alors, les mineurs, comme je vous le disais, creusent à main nue ou avec des instruments extrêmement rudimentaires, tels que des pioches ou des burins. Ils n'ont aucun équipement de sécurité, ils travaillent souvent pieds nus, ils portent des charges extrêmement lourdes, sans aucune prise en compte des risques musculo-squelettiques, notamment. Ils évoluent en permanence dans d'immenses nuages de poussière toxique, le tout sous un soleil de plomb et pour un salaire de misère. Alors, les conditions dans les mines industrielles sont un peu meilleures, mais elles ne sont pas optimales pour autant. En parlant à des ouvriers qui travaillent dans ces mines industrielles, qui ont donc des contrats de travail en bonne et due forme, j'ai obtenu de nombreux témoignages d'abus, de violations flagrantes du droit du travail congolais, d'absence de protection suffisante contre les produits chimiques pour affiner le minerai. Mais malgré ça, les emplois de ces mines industrielles sont extrêmement recherchés au Congo parce qu'ils donnent accès à des salaires qui sont bien supérieurs à ce qu'offrent d'autres secteurs de l'économie.
Vous avez aussi rencontré un drôle de mineur. On pourrait plus parler d'un glaneur d'ailleurs, c'est un clandestin de la mine, il s'appelle Bonheur, un nom poétique et presque ironique vu son histoire.
Oui, c'est probablement la phase la plus sombre de cette industrie du cobalt congolais. Bonheur est un petit garçon qui a 6 ans, qui vit à Kolwezi et qui fait partie des quelques 40 000 enfants qui, selon l'UNICEF, travaillent dans les mines congolaises. Alors Bonheur gagne sa vie en escaladant illégalement les murs d'enceinte des mines industrielles de la ville. et en allant creuser quelques pelletées de terre sur les remblais de ses mines. Puis il lave son sac dans un ruisseau et en tire généralement quelques pépites de cobalt qu'il revend aux négociants à travers la ville. Avec ça, il gagne entre 1 et 2 dollars par jour. Et c'est une activité extrêmement dangereuse parce que la police de Kolwezi, cette capitale mondiale du cobalt, n'hésite pas à tirer sur les miséreux qui, comme bonheur, vont tenter de glaner un peu de minerai dans les mines industrielles. En l'espace de seulement quelques jours à Kolwezi, j'ai recueilli plus d'une dizaine de témoignages différents sur des habitants de Kolwezi qui ont perdu un enfant, perdu un frère, perdu un ami, abattu à balles réelles par la police dans les mines de la ville. C'est un phénomène endémique et qui se produit en totale impunité. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde.
Ouais, c'est un peu la face vraiment sombre de cette quête du cobalt, cet or qui fait vivre et qui rapporte beaucoup d'argent à ce pays. On sait que les payes sont plutôt bonnes selon les standards locaux dans les mines industrielles. Ce qu'on constate quand même, c'est que cette richesse ne profite pas vraiment à la population locale et plus largement aux citoyens de la RDC.
Non, absolument pas. Vous avez raison. Les ONG font un travail de pression pour que non seulement les fruits de cette richesse aillent davantage vers la population, mais aussi que les conditions de travail s'améliorent. Mais alors, vraiment, de mon expérience de terrain, moi, je tire l'impression que le gouvernement local est tellement corrompu et que la misère est tellement répandue que la solution ne viendra probablement pas des autorités congolaises. Pour moi, le changement viendra du consommateur final. C'est nous, en tant qu'agents économiques, qui avons le pouvoir de faire changer les choses au Congo. Parce que de plus en plus de consommateurs occidentaux prennent conscience que leurs Tesla, que leurs iPhone et autres produits équipés de batteries électriques sont entachés des atrocités de ce cobalt congolais. Ces consommateurs font savoir leurs inquiétudes et donc les entreprises occidentales commencent à revoir leur chaîne d'approvisionnement. Alors, elles tentent de se sevrer du cobalt congolais, mais c'est très difficile tant la production mondiale y est concentrée. Alors à terme, la solution viendra sûrement du développement d'autres mines plus proches de chez nous, comme au Canada, en Australie, en Scandinavie, mais aussi de politiques publiques qui encouragent la production de batteries électriques en Europe ou aux États-Unis et non en Chine. Donc nous sommes en train d'essayer de regagner notre autonomie dans ce domaine. Peut-être que ça fera changer les choses au Congo et que le gouvernement congolais prendra réellement conscience que s'il ne fait rien, la manne risque de lui passer sous le nez.
Il y a dans votre article pour les Échos Week-end une citation intéressante en off d'un dirigeant d'une mine. L'entreprise est censée limiter le nombre d'expatriés à 50, mais il y a maintenant 2000 Chinois. Voilà 2 ans que nous n'avons pas embauché de Congolais. Le gouvernement de la RDC est sous la pression des ONG, vous le disiez, on sent bien que les relations avec l'Empire du Milieu limitent ses capacités d'action.
Il y a un économiste qui me disait que sans le cobalt, et sans le cuivre, mais sans le cobalt en partie, en fait, le Congo ne serait pas capable de payer la moindre de ses factures d'électricité, de ses hôpitaux. L'industrie minière, nous avons poste le cobalt et le cuivre, représente 85% des exportations et des recettes en devises du pays. Donc le Congo s'est lié avec d'immenses entreprises chinoises qui contrôlent désormais la quasi-totalité de son flux de devises. C'est trop important et les rôles de puissance se sont inversés. Le Congo ne maîtrise plus vraiment son industrie minière.
La Chine a fait main basse depuis 15 ans sur le cobalt du Congo, une stratégie payante qui a coïncidé avec l'augmentation des besoins de nombreux secteurs pour ce minerai. Comment Pékin est-il parvenu à détenir une position aussi dominante en RDC et plus largement en Afrique? C'est la question que j'ai posée à Étienne Goetz, spécialiste des matières premières aux Échos.
Pourquoi? C'est parce que depuis une vingtaine d'années, la Chine cherche à tout prix à sécuriser son approvisionnement en métaux et elle déploie toute une stratégie pour être sûre d'avoir les matières premières qu'il faut pour faire tourner ses usines de batteries, ses raffineries, etc., etc. Alors pourquoi elle s'est intéressée de très près aux métaux? C'est parce que les métaux, c'est l'avenir, c'est la ressource naturelle du 21e siècle. Pour la tech, pas de métaux, il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Pas de métaux, pas d'éolienne, pas de panneaux solaires, pas de batterie. Et pas de métaux, vous n'avez pas des missiles, vous n'avez pas des radars, vous n'avez pas d'avions de chasse super performants. Et comme la Chine a des grandes ambitions dans ces trois domaines, dans la tech, dans les énergies bas carbone, et comme elle se pense comme une puissance militaire de premier plan. Elle a tout fait depuis une vingtaine d'années pour avoir accès à ces métaux-là. Et ces métaux se trouvent en partie, pour certains, essentiellement en Afrique. Alors, concrètement, comment elle a fait pour pouvoir sécuriser son approvisionnement? Elle a investi massivement. Entre 2005 et 2020, les investissements directs à l'étranger, c'est 125 milliards de dollars pour les métaux non ferreux. Dans l'article scientifique que j'ai lu, il relève que c'est à 10 milliards près la valeur du plan Marshall. Donc ça vous donne un ordre d'idée des investissements qui ont été faits pour les métaux non ferreux. Et puis après, il y a toute une stratégie, toutes sortes de leviers qu'elle a actionnés. Elle a créé des co-entreprises, elle a développé l'internationalisation de ses entreprises, le Go Global, qui avait été le mot d'ordre en Chine. Elle a pris des participations dans des mines, elle a acquis des entreprises, elle a développé des projets miniers en Afrique. Et ce qu'elle a surtout fait dans certains pays plutôt émergents, c'est le troc d'infrastructures contre des matières premières. Donc elle arrive dans un pays, on va dire, pauvre, comme la RDC, et elle dit « je vous construis un train ». Train qui va d'ailleurs servir à transporter les matières premières. Vous n'avez pas besoin de débourser le moindre dollar. Je m'occupe de tout. Par contre, la production, elle est pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'elle a avancé ses pions pour prendre le contrôle de la production, de la chaîne de valeur. Et puis, en amont de la chaîne de valeur, elle a aussi développé des infrastructures de raffinage. Et donc, quand la Chine raffine 25% du nickel mondial, 40% du cuivre mondial, plus de 60% du cobalt et presque 60% aussi du lithium, ça veut dire qu'elle achète ces matières premières. Et donc, elle a des, on va dire, des comptoirs dans les pays producteurs, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et donc, elle structure tout le contrôle de la chaîne de valeur.
L'Afrique, c'est vraiment la terre promise des matières premières?
Alors oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a l'habitude de dire que l'Afrique est un scandale géologique. C'est un peu l'expression consacrée. Son sous-sol est extrêmement riche en métaux, en cobalt, en tungstène, en cuivre, en fer, en manganèse. Vous en avez à peu près partout. Donc c'est un continent qui a des ressources naturelles extrêmement prolifiques. Et puis la deuxième raison, c'est que l'Afrique est un continent qui n'a pas encore été exploité comme l'ont pu être d'autres continents comme l'Australie ou l'Amérique latine, qui ont aussi des sous-sols extrêmement riches. Mais comme les majors, les grandes compagnies minières, BHP, Rio Tinto, Vale, etc., ont préféré creuser à domicile, pour ainsi dire, et ils se sont un peu moins intéressés à l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent compliqué, il y a des putschs assez régulièrement, il y a une corruption endémique qui pose d'énormes problèmes pour ces groupes cotés sur des places européennes. Les infrastructures logistiques ne sont pas toujours très fiables. Donc, ils ont eu tendance plutôt à développer leurs projets chez eux ou dans des pays stables, comme en Amérique latine, au Chili, au Pérou. Et leurs gisements actuels sont en train un peu de se tarir et ils regardent de plus en plus du côté de l'Afrique qu'on n'a pas encore exploité comme les autres continents et ils se disent « Ah ben voilà, les prochains gisements qu'on va développer, ils sont en Afrique parce que là, il y a des belles teneurs en cuivre et voilà, il y a de belles opportunités. » Et donc, les groupes reviennent en Afrique après avoir un peu délaissé ce continent.
La France a aussi des ambitions et notamment, il y a un acteur important de la mine, Eramet, le groupe est connu pour son exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi un acteur important dans un autre secteur, essentiel également pour la transition énergétique, le manganèse.
C'est un métal qui est peu connu du grand public, mais en réalité, c'est le quatrième métal le plus utilisé au monde, après le fer, l'aluminium et le cuivre. On l'utilise un tout petit peu dans l'agrochimie, pour la nutrition animale et pour les engrais, mais l'essentiel de son utilisation, c'est pour la fabrication d'acier d'infrastructure. Pour faire simple, il apporte une qualité et une performance aux aciers qui permettent d'être utilisés pour la construction de ponts, de routes, d'immeubles. Donc, si vous voulez, pas de manganèse, pas de pont, pas d'immeubles modernes, pas de grandes tours à Dubaï. C'est un métal essentiel. Et bientôt, c'est aussi un métal qui va être stratégique pour la transition énergétique, puisque les batteries de voitures électriques, la chimie dominante actuellement, c'est la chimie NMC pour nickel, cobalt, manganèse. C'est à peu près 70% du parc de batteries actuellement en construction.
Vous rendu pour Les Échos à la mine d'Okouma, au sud-est du Gabon, une mine exploitée par la Comilog, c'est une filiale du groupe Eramet et en partie détenue par l'État gabonais. C'est une mine un peu particulière.
C'est pas une mine telle qu'on a l'habitude, telle qu'on se l'imagine. C'est pas une mine à ciel ouvert avec un grand trou comme en Australie ou en Amérique latine. C'est pas non plus une mine avec des galeries souterraines. C'est plutôt ce qu'on appelle une carrière. Donc on exploite une couche assez fine de quelques mètres, 6 à 12 mètres, à la surface du site. Donc on décape, on retire un petit peu le sol là où il y avait un peu de végétation. Et ensuite, on creuse et on fait comme ça en surface.
Eramet investit dans la mine de Moanda pour maintenir ce statut de plus grande mine de manganèse au monde. C'est une mine importante pour le groupe français qui a fait de ce métal l'un de ses fers de lance. On peut retrouver votre reportage sur leséchos.fr dans la rubrique Marché. Mais j'ai aussi été interpellé par les coulisses de ce reportage que vous avez publié, Étienne, sur Twitter. Vous racontez notamment l'obsession de la sécurité.
La sécurité, c'est une obsession de tout groupe minier qui se respecte un temps soit peu. Et d'ailleurs, Eramet est très fier d'avoir, en quelques années, divisé par 7 le nombre d'accidents dans ses mines. Et tout groupe minier n'a qu'un seul objectif, c'est à chaque fois zéro accident et zéro mort chaque année. Ce qui est loin d'être la réalité, il y a régulièrement des accidents. Il y en a de moins en moins dans ce genre de mine, mais il y en a toujours un petit peu.
Il y a une espèce de mantra, hein, je crois qu'il faut lire tous les matins, c'est ça ?
Tous les matins, on arrive au dispatch, donc on se répartit les chantiers où on va aller, c'est-à-dire les endroits où on va creuser. Et là, on récite une petite prière en quelque sorte, puisque c'est un peu sur le ton de la prière, où on explique qu'on a bien conscience qu'on entre sur un site minier, que ça comporte des risques, que je m'engage à tout faire pour la sécurité de moi-même et de mes collègues, et pour la communauté locale, pour ma famille, pour l'entreprise, etc. etc. Donc vraiment, c'est la priorité absolue, c'est on pense d'abord à sa sécurité et à la sécurité des autres avant de penser à creuser la terre.
Vous racontez cette espèce de coup de rabot qu'on donne à chaque fois, une façon un peu de creuser sur la durée. On imagine que ça a un impact aussi environnemental important. Vous racontez d'ailleurs ces contraintes environnementales que le groupe entend respecter pour limiter justement au maximum les impacts forcément destructeurs de la mine.
Alors, une mine qui n'a pas d'impact, ça n'existe pas. Hein. Une mine, ça consiste quand même à creuser la terre et à réduire en poudre cette montagne. Tout ce qu'on a creusé. Donc forcément, il y a une partie de la végétation qui disparaît, les animaux qui étaient là, il n'y a plus rien. Et le site d'Okouma qui a été mis en exploitation récemment, quand je suis arrivé dessus, l'ingénieur qui me faisait la visite me balayait l'horizon de sa main et il me dit « il y a 2-3 ans, c'était une zone de forêt et de savane ». Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à la Lune, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'arbres, il n'y a quasiment pas, le sol est noir. On sent qu'il n'y a plus de vie, que c'est devenu un peu inerte. Mais ce n'est pas une fatalité. Donc déjà, ils ont déterminé les endroits où il y avait beaucoup d'animaux sauvages et beaucoup de biodiversité. Ils ont dit « Ok, donc là, on n'y touche pas, on ne va pas creuser, on ira ailleurs, on verra ». Ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que une fois qu'on a creusé la couche de minerai, on remet le sol qu'on avait mis de côté et on essaye de replanter ce qui ressemble à peu près à la végétation qu'il y avait avant. Pendant très longtemps, ils ont laissé la nature faire son travail, mais bon, c'était des espèces un peu envahissantes. Et donc là, ils sont en train de mettre en place une pépinière pour voir quelle plante typique de la savane ou de la brousse a le meilleur potentiel pour pousser rapidement et redonner un peu de prise au sol, d'autant que c'est une région où il pleut 9 mois sur 12. Donc si vous avez un sol sans arbres, sans herbes, sans rien du tout, c'est lessivé et puis ça crée de la pollution dans la rivière, des coulées de boue et c'est très néfaste pour tout le monde.
Étienne, ça donne quand même le sentiment que les groupes miniers français, plus largement occidentaux d'ailleurs, ne peuvent pas batailler avec les mêmes armes que les Chinois ou les Russes.
Alors c'est sûr que les groupes occidentaux n'ont pas à leur disposition des mercenaires privés prêts à toutes les exactions, et tant mieux. Il est vrai que les groupes occidentaux ont des standards environnementaux et des standards sociaux beaucoup plus élevés et exigeants que les Chinois, qui ont des pratiques parfois franchement sulfureuses et pas respectueuses. Mais c'est parce que ces groupes sont cotés sur des places européennes, principalement à Londres, et que par conséquent, ils ont des actionnaires exigeants. puisque les actionnaires sont à l'image de l'opinion publique occidentale qui ne veut pas voir d'enfants travailler dans les mines, qui ne veut pas voir des pollutions massives autour des mines. Donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour des groupes occidentaux de faire de l'extraction minière, notamment dans des pays comme la RDC, où il y a vraiment des gros problèmes de stabilité politique et de corruption. Mais ce n'est pas impossible. En fait, ils y arrivent très bien, hein, puisque les grandes majors, BHP, Rio Tinto, etc., ont aussi des projets en Afrique. Et Ramet est présent en Afrique. C'est tout à fait possible. Ça veut juste dire qu'il faut parfois payer un peu plus cher la matière première. C'est comme toujours, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Rien n'est impossible. On peut faire ça dans les règles de l'art à peu près correctement, sans trop avoir d'impact sur l'environnement. Il faut payer un peu plus cher.
Merci Théophile Simon et Étienne Goetz pour cette plongée dans le monde des mines. Je vous invite d'ailleurs à suivre Étienne sur Twitter et sur leséchos.fr pour suivre toute l'actualité des matières premières. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.